Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, « vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Eux donc, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et un nuage le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et leur dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous ainsi à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute mon existence. Alors je vous propose de poursuivre avec un autre psaume, donc avec le psaume 25 dans le psautier français, qui nous appelle à vivre par le cœur une ascension, donc les strophes 1, 2 et 4 du psaume 25. Ô notre Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et soupirer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et développé la sagesse de l'Évangile, Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous, au plus profond de notre être, ta parole, et qu'elles nous donnent ainsi un cœur de chair, vibrant de foi, d'espérance et d'amour. Être chrétien, c'est bien entendu avoir une certaine relation au Christ, chacun à sa façon. Dans ce début du livre des Actes des Apôtres, le mode de relation qu'ont ses disciples au Christ va évoluer. Il est question au début d'apparition de Jésus pendant 40 jours, leur parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Ensuite, Jésus est élevé et disparaît à leurs yeux, mais il reste des anges qui leur parlent de lui. On pourrait dire une relation au Christ par la mystique. Enfin, il n'y a même plus d'anges, mais juste des hommes et des femmes qui sont unis par leur foi en Christ. Il y a donc différentes relations possibles au Christ et il est possible d'évoluer et l'on a le droit de panacher différents modes de relation au Christ. Je trouve que c'est très libérant d'être chrétien. Alors la fête de l'Ascension nous propose de faire mémoire de cette évolution vécue par les apôtres dans leur mode de relation à Jésus. Un détail montre que selon Luc, l'essentiel est en fait dans l'évolution des apôtres. C'est ce nombre de 40 qui est bien connu dans la Bible. 40 jours, nous dit Luc, pendant lequel Jésus se montre aux apôtres et leur parle de ce qui concerne le royaume de Dieu. Cette durée de 40 jours ou de 40 ans jalonne la Bible, à commencer par les 40 jours du déluge de Noé, les 40 ans dans le désert du peuple hébreu entre l'esclavage en Égypte et la terre promise, les 40 jours de Moïse sur la montagne pour recevoir les 10 paroles, les 40 jours de marche d'Élie dans le désert entre le désespoir et la rencontre avec Dieu, et les 40 jours dans le désert de Jésus à lutter contre les tentations et recevoir finalement l'apaisement et cet envoi en mission. Dans la Bible, quand apparaît ainsi un de ces quelques nombres remarquables, cette indication ne renseigne pas sur une quantité, mais sur la qualité de ce dont il est question, sur le sens de ce qu'il est question. Et donc quand Luc parle de ces 40 jours entre la Passion et l'Ascension du Christ, Il n'est clairement pas question de nous renseigner sur une durée de 40 fois 24 heures, mais c'est une interprétation qu'il nous propose en convoquant les textes bibliques qui sont associés à ce nombre, à cette durée de 40 quelque chose. D'ailleurs, pour ce qui est de la période historique entre la mort de Jésus sur la croix et le don de l'Esprit aux apôtres, l'Évangile selon Jean nous dit que cette période ne dure pas plus de 2 fois 24 heures. Mais qu'importe ? Qu'importe donc ce qu'ont vécu les apôtres il y a 2000 ans, nous dit ici Luc, avec ses 40 jours d'apparition de Jésus ? L'important, c'est ce qu'il lui semble, ce qui lui semble devoir être retenu de cette expérience des apôtres il y a 2000 ans, c'est que nous puissions profiter nous-mêmes, finalement, nous qui sommes amis de Dieu, qui sommes théophiles, lecteurs de son livre, c'est que nous puissions profiter de cette expérience pour la vivre à notre tour. Et c'est ce qu'il nous dit à travers ce chiffre de 40, finalement. Vivre une évolution, vivre une période de maturation. Toujours, que ce soit pour Noé, pour les Hébreux, pour Moïse, pour Élie ou pour Jésus, cette période qualifiée du nombre de 40 marque une période difficile de transformation, quelque chose de long, de pénible, avec pas grand-chose de neuf, mais qui débouche finalement sur un état de leur être où ils sont dans une juste alliance avec Dieu et ils sont prêts pour accomplir leur vie, leur mission. Avant cette difficile évolution, à chaque fois, chacun de ces héros bibliques a été préparé par Dieu, équipé, nourri, afin de la rendre possible. Alors marquée du nombre de 40, la période des apparitions de Jésus aux apôtres, ça relativise finalement ces apparitions de Jésus aux apôtres comme un temps de maturation, un temps d'évolution des disciples eux-mêmes, un temps de cheminement intérieur, une gestation pour leur fécondation, entre leur fécondation et leur naissance. Fécondation qui a été donnée avant en Jésus-Christ et leur naissance qui serait le don de l'Esprit. Alors quand Luc met en parallèle ces 40 jours d'apparition de Jésus ressuscité avec Noé qui est sur son arche, cela dit que cette période de maturation est comme une purification du Noé qui est en chacun de nous, pour que ce Noé puisse être libéré de sa propre violence. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre, donc dans sa lettre, interprète au sens figuré l'histoire du déluge, comme parlant de la même chose que ce que vient signifier notre propre baptême. Pierre nous dit « L'eau du déluge était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de la souillure du corps, bien sûr, mais qui est en réalité l'appel d'une bonne conscience vers Dieu, et qui donc maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. » Donc Pierre remet les choses à sa place. Ce qui est accompli en Christ pour nous n'est pas comme une purification finalement externe de notre être, qui serait pourrie, qui serait abîmée, ni comme un effacement de notre compte de fautes et de péchés. Ce n'est pas la question, l'amour de Dieu est au-delà de ce type de comptabilité. Mais Pierre nous dit que ce qu'apporte finalement la résurrection du Christ, c'est un enrichissement de notre propre conscience, c'est un profond questionnement qui peut nous faire choisir d'avancer vers Dieu personnellement. Et effectivement, l'histoire de Noé, comme tout ce qu'a fait ou dit Jésus, c'est un appel à convertir notre théologie, à ne plus penser Dieu comme pouvant nous détruire, mais cette histoire nous dit finalement le projet de Dieu, projet de nous protéger dans le danger, et puis ensuite de nous inviter à sortir de cette protection, sortir librement de notre arche quand il n'y a plus de danger. Et donc c'est un appel à une libre fécondité, un appel à remplir la terre de merveilles, nous dit ce texte de la Genèse évoquant la fin du déluge. Alors c'est ce que reprend Luc dans ce récit de l'Ascension. Ils sont dans un temps de maturation, comme Noé dans sa barque, qui attend, qui médite et qui observe. Luc nous invite à méditer sur ce qu'a fait et dit Jésus, à en être purifié, à être émerveillé par l'arc-en-ciel qui nous dit la tendresse de Dieu pour nous, et puis à entendre son projet avec nous, son alliance, son envoi en mission. Cette durée de 40 jours dont parle Luc fait encore référence aux 40 ans dans le désert du peuple hébreu. Cette référence est centrale, bien entendu, puisque cette mort de Jésus coïncide avec la date de Pâques, qui est donc mémoire de la sortie d'Égypte, du début de cette traversée de 40 ans dans le désert. Et ce temps jusqu'à l'ascension est donc un temps pour que nous cheminions, que nous puissions nous extraire de tout ce qui nous aliène encore, que nous acceptions d'être libres, d'être adultes, pensants par nous-mêmes, simplement confiants, prêts pour franchir le Jourdain et entrer dans cette vie que Dieu nous promet, cette vie éternelle. Cette durée de 40 jours dont parle Luc fait encore référence aux 40 jours de Moïse sur la montagne pour recevoir les 10 paroles. Et donc cela nous appelle non pas tant à apprendre par cœur les paroles de Jésus ou les paroles de la loi, mais à être, grâce à Jésus, comme Moïse, libre, en étant nous-mêmes inspirés directement par Dieu et prenant seul pour cela des temps de retraite, comme le faisait d'ailleurs Jésus aussi, seul sur la montagne, le temps qu'il faut, et ne redescendre qu'ayant reçu ce que Dieu voulait nous apporter pour que nous puissions avancer sur notre propre route. Alors cette durée de 40 jours dont parle Luc fait encore référence aux 40 jours de marche d'Élie. Avant de partir, Dieu a nourri Élie miraculeusement d'une galette et d'une cruche d'eau, alors qu'il était désespéré, alors qu'il était à bout de force. Et donc Christ est pour nous cet ange, il est cette nourriture miraculeuse qui nous est donnée, il est cette cruche d'eau pour nous désaltérer, et il est ce repos que Élie peut prendre ainsi. Et alors, nous pouvons avoir la force de marcher 40 jours, nous dit cette histoire d'Élie, jusqu'à la montagne de l'Horeb, où Élie rencontrera le souffle de Dieu. Ces 40 jours, là encore, sont des jours où il ne se passe pas grand-chose de neuf, pas grand-chose de spectaculaire. Tout a été donné avant comme force et le sera après dans une extraordinaire rencontre face à face avec Dieu, comme pour Élie, comme pour Noé, comme pour les Hébreux, comme pour Moïse. Alors cette référence des 40 jours dans le témoignage de Luc nous dit que les apparitions de Jésus parlant du royaume de Dieu, c'est quelque chose de cet ordre. Quelque chose comme une digestion de tout ce que Jésus a fait et a dit au cours de son ministère pour que nous en vivions, que nous puissions l'intégrer dans une qualité de notre être, dans une qualité de notre relation à Dieu, dans une qualité de regard sur ce monde, de relation avec nos frères et sœurs. Cette durée de 40 jours dont parle Luc, eh bien, elle fait enfin référence aux 40 jours de Jésus dans le désert à lutter contre ses tentations et à les vaincre avec l'aide de Dieu. Jésus sort à peine de l'eau de son baptême où la voix de Dieu lui a dit qu'il était son enfant bien-aimé. Dieu lui a fait prendre ainsi toute la mesure de l'incroyable merveille qu'il est à ses yeux. Comme nous pouvons aussi prendre conscience de notre propre valeur. Mais quel est ce potentiel réellement et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Eh bien, tout est ouvert, tout est permis, à la fois par nos dons qui sont importants et puis par le chèque en blanc qu'est la grâce, qu'est l'amour de Dieu. Eh bien, ce temps de 40 jours, c'est un temps de combat et d'interrogation, un temps où tout s'entrechoque finalement dans notre tête, dans nos tripes. Alors, comme Noé, nous sommes entre la peur et l'enthousiasme. Après les 40 jours, nous pouvons choisir l'enthousiasme avec Dieu. Nous sommes comme les Hébreux entre le train-train de l'esclavage, de la vie quotidienne, et puis le trouble de la marche vers la nouveauté. Et alors, après les 40 jours, nous pouvons choisir la nouveauté avec Dieu. Nous sommes comme Moïse entre la pensée unique et puis l'esprit prophétique, et choisir d'écouter et de dire des paroles neuves et vraies, et de choisir Dieu plutôt que nos veaux d'or qui sont si rassurants. Nous sommes comme Élie entre la tristesse d'être mal aimé et la découverte que Dieu est un souffle qui nous est donné et qui nous visite, Dieu lui-même nous donnant de vivre. Et tant de choses nous a été données en Christ que nous avons encore tellement à assimiler, à digérer, à intégrer dans notre propre façon d'être, d'espérer et d'agir. Alors oui, nous avons appris que vivre, c'est aimer, c'est faire confiance. Nous savons que c'est mauvais pour le monde et pour nous-mêmes de faire des petites vacheries aux autres, qu'il serait bon de vivre fidèlement avec Dieu en étant finalement une fontaine de bonnes surprises pour les autres, pour le monde. Nous avons appris qu'il est bon d'espérer et de pardonner. Nous avons entendu parler de cette dynamique de la grâce en voyant Jésus vivre, rencontrer, guérir, parler. Mais tout cela, il nous reste encore à l'intégrer et à le vivre. Oui, il y a encore du travail et les 40 jours ne sont pas de trop. 40 jours qui nous appellent à nous concentrer délibérément sur l'essentiel. Alors ce ne sera pas peut-être littéralement 40 jours, ça peut être 40 secondes de prière, de méditation, de réflexion, 40 ans de réflexion, de méditation, de prière, de cheminement, qu'importe. C'est une période de maturation à vivre. Alors que Jésus se trouvait avec eux, nous dit les Actes, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alors, dans un certain sens, Jésus nous anime aussi, puisque c'est sa parole, sa personne et sa vie qui nous ont poussés à ouvrir la Bible aujourd'hui, à la recherche de quelque chose qui vienne de Dieu et qui nous animera vraiment. Comment est-ce que cette idée nous est venue, finalement, de compter sur Jésus-Christ pour cela ? Alors c'est très personnel pour chacune et chacun d'entre nous, il peut y avoir mille raisons de s'être intéressé ainsi au Christ. C'est peut-être le souffle de Dieu déjà qui nous a ouvert à une recherche spirituelle, c'est peut-être le souvenir d'une parole d'une grand-mère, ou de la parole d'un ami, ou un reportage sur Sœur Emmanuelle, sur François d'Assise, ou sur les Cévennes, qu'importe. Il y a eu ensuite ces textes incroyablement puissants qui sont dans la Bible et qui nous parlent de l'Évangile de Dieu. Mais en tout cas, quelque chose de Jésus nous a touchés. Quelque chose du Christ est apparu dans notre vie, nous parlant du royaume de Dieu, d'une action de Dieu qui viendrait tisser en nous quelque chose qui nous rendrait finalement un petit peu fort et bon. Ne pas s'éloigner de Jérusalem, c'est un peu, c'est pas camper dans cette ère problématique finalement qui est dans le Moyen-Orient, mais c'est se concentrer délibérément, volontairement sur ce qui nous a touchés en Christ dans le passé finalement, ce qui nous a amenés vers lui et le ruminer cela et attendre que cela s'incarne en nous. Après cette période qui dure symboliquement 40 jours et qui est en relation à notre Jésus agissant dans le monde, vient une période où Jésus est élevé et disparaît à nos yeux, leur faisant lever les yeux vers le ciel. Mais alors il reste des anges qui les invitent à changer de regard. Alors c'est une période de complexification où l'on ne comprend plus rien, de trouble, où à la fois notre Jésus disparaît et nous renvoie à Dieu, plus grand que tout, mais où ce même Dieu nous renvoie à Jésus et nous renvoie au monde, comme ces anges que rencontrent les apôtres. Et donc quelque chose se tisse de plus libre et de plus complexe, de plus intérieur et de plus dynamique que simplement de ruminer le Jésus historique. Une tension entre le spirituel et le monde. Et puisqu'il est question d'anges, cette seconde étape de leur construction, elle est de l'ordre de l'expérience spirituelle. Quelle qu'en soit la forme, il y a bien des sortes d'anges, bien des lieux où ils parlent, dans la prière, dans la réflexion, dans la discussion avec un autre, dans le culte ou dans la lecture, dans la méditation, qu'importe. Cette étape, c'est déjà une incarnation, finalement, de ce que le Christ a fait dans leur vie. Elle est cette voix de Dieu qui dit à Noé de sortir de son arche, de sortir librement, d'avancer son propre chemin. Elle est cette voix de Dieu qui dit à Moïse de redescendre de la montagne. Elle est cette voie qui dit aux Hébreux de franchir le Jourdain. Elle est ce qui fait, cette voie qui appelle Élie à sortir de sa grotte et ce qui permet à Jésus de terminer son temps de retraite spirituelle parce qu'il fait jour et qu'il est temps d'aller vers la foule qui a besoin d'être nourrie par sa parole. Et puis enfin, même les anges disparaissent, nous dit Luc. Il y a juste des hommes et des femmes qui sont unis par leur foi. Et cette promesse et cette vocation d'être porteur d'une parole personnelle jusqu'aux extrémités de la terre, c'est la bonne vieille alliance de Dieu avec Noé et ses enfants, celle d'être quelqu'un de fécond, de nous multiplier et de remplir la terre. C'est la mission donnée à Moïse d'aller vers son peuple et de lui proposer un cheminement avec l'Éternel. C'est la vocation d'Élie de reprendre son chemin par le désert jusqu'à Damas et de porter l'onction à des rois pour qu'ils puissent agir en ce monde et d'oindre Élisée comme prophète à sa place pour prolonger encore son témoignage dans le monde au nom de l'Éternel. Alors Christ devient pour eux donc de moins en moins physiquement présent. Il disparaît pour eux, il est comme digéré finalement. Et au fur et à mesure de cette évolution, les femmes et les hommes qui pensent à lui vont devenir eux-mêmes christiques finalement, eux-mêmes plus acteurs dans le programme divin de salut du monde, chacun à sa façon. Comme le dit Jésus dans l'Évangile selon Jean, « Il est vraiment avantageux pour vous que je m'en aille. » Et ce n'est plus alors, plus seulement la parole de Jésus, la parole historique qui compte finalement. Mais c'est la dynamique qu'il a portée et qui va nous animer maintenant, qui nous envoie chacun pour son compte, et puis tous ensemble en tant que groupe, jusqu'à ce que l'univers entier en soit animé. Être un chrétien de l'ascension, c'est ainsi un effort délibéré de concentration sur l'essentiel et de consécration à cet essentiel. Amen.